France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Et bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont venus tester leur forme sur le super G de l'actualité. Certains comptent même faire du patinage artistique avec ou sans costume déchiré, c'est à discrétion. En tout cas, sur la grande patinoire de l'info, et ce soir, les informés de France Info reçoivent la politiste Frédéric Matonti, bonsoir.
Bonsoir.
Également Jade Zab, bonsoir. Vous êtes essayiste et président du Parlement des étudiants. Stéphane Dermet de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et François Lorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, avant la loi sur l'immigration, l'heure de l'intégration, Macron en apnée dans les sondages, SNCF, le train des négociations est parti à l'heure. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Prenons au hasard une école de commerce peuplée d'une quarantaine d'élèves, dépassant de peu la vingtaine et tous ultra connectés. Hein. Prenons un haut responsable politique au hasard, je sais pas, de droite, qui, en introduction de son cours, leur dit « Attention, là, ce que je vais dire, faut pas que ça sorte d'ici, ça peut créer la polémique. » Bien sûr, personne ne va enregistrer, ça serait vraiment incroyable. Hein. Et pourtant, depuis que l'émission Quotidien a diffusé vendredi les propos du président Les Républicains, l'interrogation se fait grande. Coup de com' réussi ou maladresse de la part de Laurent Wauquiez, critique d'Emmanuel Macron, mise au pilori de Gérald Darmanin, accusation d'écoute contre Nicolas Sarkozy, accusation contre Emmanuel Macron pour la soi-disante mise en place d'une cellule de démolition contre François Fillon. Toute la classe politique condamne, Les Républicains déminent et originalité, dénonce un complot journalistique, la porte-parole des Républicains, Laurence Saillet.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a encore en France de la déontologie journalistique, un journaliste qui corrompt un élève en amont pour faire un enregistrement illégal? Le journaliste en question a envoyé des messages aux étudiants pour leur proposer d'enregistrer cette émission.
Vous
pour faire
qu'il les a
un
payé.
Montage, ce montage vicié est illégal. Et nous ne nous laisserons pas faire.
C'est-à-dire qu'il a promis des poursuites judiciaires à leur camp?
Nous verrons.
Voilà, Laurence Saillet, ce matin sur CNews avec donc Jean-Pierre Elkabbach. Bien sûr, les propos tenus par Laurence Saillet ne sont pas du tout confirmés, reconnus, voilà, par rapport au travail de ce journaliste de Quotidien. Frédéric Matonti, Laurent Wauquiez s'est excusé de ses propos, mais seulement auprès de Nicolas Sarkozy, pas des autres. C'est-à-dire quoi finalement, qu'il assume?
C'est compliqué de savoir parce que tout est mystérieux dans cette affaire. Le prof qui arrive et qui dit surtout ce que je vais vous dire, ne l'enregistrez pas. Ça c'est extraordinaire. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui appuie sur l'iPhone à peu près immédiatement. Après il dit un truc du style attention parce que c'est hyper important. Tout ce que je vais vous dire, je peux pas le dire dans les médias où je donne de la langue de bois. Donc il vous dit en même temps c'est vrai. Bon, donc ça c'est quand même un petit peu compliqué, ça fait un peu la lettre volée d'Edgar Poe, on met bien le truc en évidence. Et comme ça bon. Après moi ce qui me frappe dans ce qu'il dit, je pense qu'il dit tout haut ce que certains pensent tout bas, en particulier autour de François Fillon par exemple hein, ça je pense qu'il y a des gens chez les Républicains qui pensent ça. Ce qui me frappe moi quand même, c'est qu'on s'interroge jamais sur c'était quoi le sujet du cours. Comment on arrive à dire ça dans un cours normal? Comment on arrive à parler de ça?
C'est après le cours, apparemment.
Je suis pas sûre.
C'est un exercice de questions-réponses, ouais, en fait, peut-être. Avec les étudiants.
Et puis, moi, ce qui me frappe aussi, c'est le niveau de langue. C'est-à-dire qu'il a un niveau de langue extraordinairement relâché. Hein. Et c'est quand on est un ultra diplômé comme lui, ce jeu avec le niveau de langue ultra relâché, c'est vraiment la marque, le jeu avec la distinction. Quoi. C'est très...
Alors François Orcival, est-ce que finalement c'est quelque chose, je ne vais pas vous demander de savoir si c'était réfléchi ou pas, mais est-ce que cette chose-là, ça peut lui porter préjudice ou au contraire lui être bénéfique?
Ah oui, alors d'abord c'est tout des bullshit. Parce que ça, il l'a dit.
C'est ce qu'il a dit, bullshit. Ah oui, c'est, ce que, voilà, c'est le mot employé
absolument.
Par
rapport à ça. Donc, vous dites Edgar Poe, vous dites la langue, vous dites... C'est des bullshit. Bon.
C'est tout aussi chic, hein, c'est un terme employé de manière très chic, bullshit.
Dans le langage actuel, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, c'est vrai que depuis vendredi, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça, et même il y a certaines antennes où Martin Fourcade était complètement noyé par Laurent Wauquiez et ses fameuses confidences à l'ENM de Lyon. Est-ce que ça peut lui profiter? C'est l'idée, on va faire Trump.
On va faire Trump, alors on va en balancer, etc.
À la vérité, je n'en sais rien. La question que je me pose, il a réussi son émission de télévision qui était un vrai oral.
L'émission politique.
L'émission politique, c'était il y a trois semaines, France 2. il l'a réussi incontestablement. S'il nous dit aujourd'hui que ce jour-là, il n'a raconté que des bêtises à l'antenne, on se dit, mais quand est-ce qu'il dit la vérité ? Donc, je trouve ce procédé dangereux, et en même temps, je ne peux pas le prendre pour un naïf total. Il savait très bien qu'en disant aux étudiants qu'il a en face de lui, n'enregistre pas, qu'il y en aurait au moins un qui enregistrerait.
Voilà, Jadzab, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on a l'impression que... Il va faire un coup, mais peut-être que ça le dépasse, je ne sais pas, en tout cas. Mais de parler sans filtre, on sait que ça a été sa marque de fabrique aussi tout au long de l'élection pour être président des Républicains. Là, il continue finalement.
Oui, ça a toujours été le cas de Laurent Wauquiez, d'incarner une espèce de droite décomplexée, directe. On dit
terme,
les choses. C'était le terme de Jean-François Copé qui a été repris par Monsieur Wauquiez. L'idée de dire que voilà, on est sans filtre, on n'a pas peur de dire les choses. Vous disiez qu'il a réussi son émission politique. Oui, mais avec l'audience la plus faible, je crois, depuis l'histoire de l'émission.
Non, ça tient pas.
Je suis prêt à parier que l'audience de cet extrait qui a été diffusé depuis vendredi a fait beaucoup plus que les 1,34 millions qu'il a fait dans son émission. Donc c'est un coup médiatique totalement réussi. Et pour être étudiant moi-même, je sais qu'on raffole de parfois des anecdotes quand on a des personnalités qui nous donnent cours. Donc j'ai beaucoup de mal à croire qu'il a lui-même été étudiant, qu'il n'ait pas pu envisager le fait que ça allait être diffusé et que même il ne l'avait pas prévu.
Une correction sur le problème de l'audience, de Laurent Wauquiez. Effectivement, c'est une audience faible par rapport aux autres. Mais l'audience de Jean-Michel Blanquer la semaine dernière
tout
a été
fait.
Équivalent.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Tout à fait.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cas de Laurent Wauquiez, il était à la fin d'une campagne de démolition complète, et donc on pensait évidemment que les gens n'allaient pas se précipiter pour voir le spectacle, ils ont eu tort. Et pour Jean-Michel Blanquer, depuis, il est beaucoup plus populaire qu'il ne l'était avant, grâce à la même audience.
Allez, on va en parler, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Julie Smul.
Édouard Philippe le promet, le gouvernement reprendra les grands axes du rapport sur l'intégration des réfugiés. 72 propositions présentées par le député En Marche, Aurélien Taché. Parmi les pistes, doubler le nombre d'heures de français, permettre aux demandeurs d'asile de travailler, ou bien se baser sur la motivation des candidats plutôt que sur leur durée de résidence en France pour leur accorder la nationalité. Une djihadiste française de 27 ans, bientôt expulsée d'Irak, direction la France. Mélina Boujédir sera escortée par les forces spéciales françaises et placée en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes dès son arrivée. Elle est partie en Irak en 2015 pour rejoindre son mari, arrêté cet été à Mossoul. 3 de ses 4 enfants ont déjà été rapatriés. 5 départements du sud-ouest en vigilance orange, 4 pour des risques élevés d'avalanches, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Ce dernier et les Landes sont aussi en orange face au risque d'inondation. Journée mouvementée pour les sportifs français au JO de Pyeongchang. Pas de nouvelles médailles, le compteur reste à 10. Plusieurs incidents, la blessure et le forfait en ski cross d'Ophélie David, une 13e place en bobsleigh pour les Français, ou encore la robe de la patineuse Gabriela Papadakis qui se décroche en pleine épreuve avec son partenaire Guillaume Cizeron. Il termine 2e du programme court, en bonne place donc pour le programme libre prévu cette nuit.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, tout le week-end, on s'est posé la question, l'a-t-il fait exprès ou pas ? Laurent Wauquiez, devant des étudiants d'une école de commerce à Lyon, où il donnait un cours, d'ailleurs il y aura encore 2 autres cours, donc on ne sait pas ce qu'il va dire, Laurent Wauquiez. En tout cas, il a promis pour celui qui allait sortir ses propos de son cours, je ne sais pas, peut-être lui donner une mauvaise note, enfin, je pense qu'ils sont à la recherche. Stéphane Vernet, on voit en effet que les Républicains occupent la place, on a passé tout à l'heure Laurent Saillé, il y a un autre porte-parole des Républicains qui a dit aujourd'hui, ce qu'on a pu voir à Quotidien vendredi, c'est un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur. On se demande quelle est cette comparaison. En même temps, est-ce que ça peut marcher toujours pour séduire aussi la base des Républicains, c'est-à-dire ce discours sans filtre qui a marché auprès de pendant la campagne pour la présidence du parti ?
Mais moi, je crois que vous mettez le doigt sur la question, la bonne question. C'est que autant ça avait du sens pendant la campagne, autant ça y est, Laurent Wauquiez, il est président des Républicains. Est-ce qu'il a besoin de continuer ce type d'exercice ? Moi, personnellement, je suis persuadé que c'est une maladresse, qu'il a pas fait exprès. Donc, sinon, on n'aurait pas eu tout ce cinéma autour du bullshit. Enfin, pour quelqu'un qui veut parler vrai et convaincre et séduire en parlant vrai, vous commencez pas par poser un préalable qui consiste à dire que vous savez, quand je suis sur les plateaux de télévision, je raconte n'importe quoi, ça marche pas.
Quand on dit juste qu'il fait du Trump, pour vous, est-ce que finalement il s'en inspire dans cette technique de communication d'être sans filtre ?
Ouais, alors, c'est pas du tout Donald Trump. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un de très intelligent. On le disait avant l'émission. Il a un niveau de diplôme qui est quand même très, oui, très différent. C'est une tronche, Laurent Wauquiez. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un parler aussi populaire, des choses aussi, aussi ras de terre, enfin, pour convaincre son électorat? Encore une fois, moi, quand il s'adressait il cherchait une base électorale forte pour prendre la présidence des Républicains, je comprends. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il a besoin d'élargir cette base, d'être dans l'apaisement. En tout cas, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Manifestement, on n'en est pas encore là, si c'est pas une maladresse. Il a peut-être besoin encore de tuer un certain nombre de concurrents potentiels. Sauf que là, dans ces petites phrases à droite à gauche, à la fois, il tue le père, il tue les frères, les sœurs.
À propos de frères,
il a raflé tout le monde.
De concurrents potentiels, il a bien sûr parlé de Gérald Darmanin. Ouais. Des deux affaires l'occupant. Ces phrases ont été prononcées donc le vendredi matin, vendredi après-midi. Gérald Darmanin était blanchi dans une des deux affaires, bien sûr, qui nous occupent actuellement. Et il est revenu dessus, Gérald Darmanin, ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Et voilà ce qu'il avait envie de dire à Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin.
Moi, personnellement, j'ai pas de ressentiment contre Laurent Wauquiez. C'est un opposant politique, désormais. Nous avons servi ensemble le président Sarkozy. J'ai pas de ressentiment personnel. Moi, d'ailleurs, je fais pas de politique avec de la violence dans mon corps, voyez. J'ai l'impression que Laurent Wauquiez, il est un peu tombé du côté obscur de la force, là. Je crois que ses propos sont très dérangeants et sont très choquants.
Gérald Darmanin, ce matin sur BFM, on voit aussi, Jadzab, qu'à travers toutes ces histoires avec Gérald Darmanin, quand les Républicains demandaient à tête, qu'il y avait aussi un règlement de compte.
Oui, non, mais c'est certain. Je crois que Laurent Wauquiez, il a besoin d'exister médiatiquement. Depuis l'élection à la tête du parti, on en entendait très peu parler. Donc oui, effectivement, il a besoin d'exister dans les médias. Moi, je suis très gêné par la réaction de Laurent Saillé qu'on a entendu tout à l'heure sur l'attaque des médias. Évidemment, Laurent Wauquiez n'est pas Trump, mais le fait de s'en prendre tout de suite et de manière directe à des médias en disant voilà, ce sont les médias qui n'ont pas bien fait leur travail, qui sont biaisés, etc., ça rappelle quand même beaucoup Donald Trump. Et Laurent Wauquiez, il a dit ce qu'il a dit. Donc là, je crois que depuis vendredi, en fait, on s'interroge sur la forme. C'est-à-dire, est-ce que ces extraits-là avaient vocation à être diffusés ou non? Peut-être qu'ils n'avaient pas vocation à être diffusés, mais maintenant, ils le sont. Et le fond est problématique pour quelqu'un qui veut rassembler. Valérie Pécresse a créé son mouvement au sein du parti. Il y a une question d'aller plus loin pour essayer d'être le premier opposant à Emmanuel Macron. Alors, on parle beaucoup de la forme, mais le fond est quand même aussi problématique.
Une dernière chose, Frédéric Matonti, justement, est-ce que ça le conforte comme rôle d'opposant? Encore plus.
Bah, en tout cas, manifestement, qu'il ait voulu que ça sorte ou qu'il n'ait pas voulu que ça sorte, il dit quand même publiquement quelque chose qui a vocation à être su. Donc, ce qu'il dit a bien un sens. C'est pas simplement de la maladresse. C'est-à-dire, c'est aussi dire tout haut des choses très brutales sur un certain nombre de ses adversaires et concurrents. C'est aussi dire très très fort les traîtres qui, en gros, comme Gérald Darmanin, partent. Il y a vocation à les châtier. Ils vont tomber. Je pense qu'il faut, enfin, je veux dire, que ce discours ait un petit cénacle ou qu'il ait un grand cénacle, il a un sens politique. Il faut écouter ce qu'il dit. Je crois que ça lui permet de dire. Tout haut ou tout bas, des choses qu'il ne peut pas dire publiquement. Après,
mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas directement?
Il l'a dit directement. Il l'a dit directement.
Je suis assez d'accord.
Non, il l'a dit directement. Qu'il veuille être Trump, c'est vrai. Qu'il veuille dégommer les copains, c'est vrai aussi.
C'est la valeur. Je pense que c'est ce qu'il fait.
Et c'est franchement pas une nouveauté en politique.
Allez, en tout cas, on verra si ça aura une suite, ces propos de Laurent Wauquiez. On va parler un peu d'économie, puisque aujourd'hui, la réforme de la SNCF, hein, vous le savez, veut s'attaquer d'une manière structurelle à l'entreprise publique ferroviaire. Mais va-t-elle régler le problème le plus important du voyage en train, à savoir dans les places formant un carré, est-ce qu'il est possible de croiser les gens sans les mettre dans la figure de son voisin de devant, parce que c'est quand même un souci. Bon, pour l'instant, rien hein, sur ce sujet. Dans le rapport Spinetta, c'est incompréhensible d'ailleurs. Alors, après la remise jeudi des pistes de réflexion autour d'une réforme de la SNCF, l'heure des négociations a commencé. La direction a été reçue aujourd'hui à Matignon et les syndicats au ministère des Transports. Hier, dans le journal du dimanche, Elisabeth Borne a prévenu, pas de statu quo possible. Et pour les syndicats, la remise en cause du statut de cheminot est une ligne rouge. La CGT a déjà annoncé une journée d'action le 22 mars prochain. Des discussions qui se lancent dans une ambiance donc hyper sympa. Et le débat politique devrait suivre le député de la France Insoumise, Alexis Corbière.
Oui, il faut que les choses bougent à la SNCF. Il faut améliorer le service public. D'accord ? Toujours pareil.
Et on faire évoluer le statut des cheminots et de l'entreprise.
Non mais, n'utilisez pas, cher Adrien Jean, dans une nouvelle langue, faire évoluer le statut. Là, il s'agit de privatiser. Mm-hmm. Il s'agit de dire, parce que, au bout d'un moment, les mots n'ont plus de sens. Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, sous l'injonction de l'Union Européenne, car il s'agit de ça, aujourd'hui, privatiser la SNCF, qui est un joyau.
Non, ouais,
je
Claire,
suis pour que cela reste un service public. Parce que c'est pas vrai que le privé, ça marche mieux que le public. La France Insoumise sera aux côtés de ceux qui manifesteront. Et politiquement, parce que vous avez devant vous un député, nous prendrons position en disant c'est mauvais, c'est un affaiblissement de l'État.
Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, hier donc sur LCI. François Rossival, quelles sont les marges de manœuvre des syndicats, finalement?
Alors, je ne sais pas, parce que l'expérience montre que en septembre dernier et en octobre, à l'égard du Code du travail, qui était un truc quand même assez fondamental, ils n'ont pas pu bloquer. L'affaire de la SNCF, maintenant, il y a des années qu'on sait que les choses vont et ne cessent de se transformer. Je pense que l'hostilité à l'égard du statut est quelque chose qui est en train de s'épuiser. En revanche, je suis sûr, en revanche, que dans l'opinion publique, le fait de vouloir supprimer un tiers des kilomètres de ligne, parce que c'est ça qui se prépare, alors ça, oui, il va y avoir de la résistance. Qu'il y ait une sorte de cristallisation de refus parce que dans les communes, dans les villes, toutes ces villes abandonnées, elles sont là. Et de plus en plus, on entretient mal leur voix. Et là, on leur dit, écoutez, tout ça va disparaître. Là, je pense qu'il peut y avoir, en effet, un problème.
Et Frédéric Matonti, pour vous, il y a une marge de manœuvre aujourd'hui des syndicats. Aujourd'hui, on a, voilà, il y a des lignes rouges, on l'a entendu.
Je suis tout à fait d'accord avec François Dorcival. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir à la question du statut. Parce qu'on voit bien comment le statut, c'est le chiffon rouge. C'est-à-dire, quand on écoute la manière dont les politiques d'En Marche sont intervenues, c'était pour dire, ah, on va casser ce tabou du statut. Quand on regarde un petit peu plus ce qu'il y a dans le rapport Spinetta, c'est effectivement supprimer des petites lignes, c'est supprimer aussi, réduire une partie des lignes TGV, ce qui veut dire en gros qu'on aura des régions de plus en plus enclavées, on aura donc des régions de plus en plus déshéritées, qu'en plus le coût va tomber sur les régions, hein, si j'ai bien compris. Bon, alors on peut parler aussi des effets écologiques logique de cette réforme qui consiste à fermer des lignes, mais laissons ça tranquille. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est assez ça va de pair avec des logiques politiques. C'est-à-dire que c'est toujours... En fait, les réformes de Macron, c'est pour la France qui va bien. C'est pour la France urbaine. C'est pour ceux qui réussissent bien à l'école. Enfin, c'est toujours cette logique-là. C'est comme quand on ferme des petites classes dans les campagnes.
C'est ça. Alors, on va y revenir dans un instant. L'info à 20h20, Julie Smul.
Promesse tenue, l'Élysée annonce ce soir que Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet prochain. Le président l'avait promis pendant les obsèques de l'ancienne ministre et présidente du Parlement européen. Simone Veil et son époux entreront ensemble dans ce lieu réservé aux personnalités exceptionnelles. La cérémonie sera à suivre en direct à la télévision. Les consultations sur l'avenir de la SNCF lancées depuis ce matin, chantier ultra sensible pour le gouvernement. La direction reçue d'abord à Matignon, les syndicats ensuite cet après-midi au ministère des Transports. C'est le tout début des négociations. Le calendrier et les détails de cette réforme doivent être présentés la semaine prochaine. Les excuses officielles ce soir d'Oxfam aux autorités haïtiennes. Suite du scandale sexuel qui secoue l'ONG, des responsables accusés d'avoir engagé des prostituées, parfois très jeunes, pendant leur mission humanitaire en Haïti après le séisme de 2010. Au moins 44 civils tués aujourd'hui dans de nouveaux raids aériens du régime syrien sur la région rebelle de la Ghouta. Des bombardements qui prépareraient une offensive terrestre, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La cantine gratuite pour les familles les plus modestes, c'est une proposition de loi signée aujourd'hui par une trentaine de députés En Marche, mesure qui concernerait les familles dont les revenus ne dépassent pas les 7 800 euros annuels, l'équivalent du seuil de pauvreté.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ça y est, les négociations concernant le futur statut de la SNCF se sont ouvertes aujourd'hui à Matignon et au ministère des Transports. Jade Zahab, est-ce que finalement aussi, on se souvient, en 1995, le gouvernement d'Alain Juppé avait lancé conjointement une réforme des retraites et un nouveau plan État-SNCF. Mmh. Résultat, 3 semaines de grève, Alain Juppé avait reculé. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un hommage finalement d'Edouard Philippe à son mentor parce que là, on est quand même... est-ce qu'on se prépare à ça ou pas? Ou est-ce que les syndicats ont moins de marge de manœuvre, d'après vous?
Alors, c'est très probable pour l'hommage du Premier ministre à Alain Juppé. J'ai l'impression, enfin j'ai cru entendre dire que là-dessus le gouvernement ne reculerait pas face à la rue. Je crois que les syndicats sont dans leur rôle de défendre un certain nombre de prérequis. J'aimerais juste réagir à ce qui a été dit à l'instant. Vous disiez voilà Emmanuel Macron, c'est les réformes uniquement pour ceux qui vont bien. Alors je pense qu'il faut modérer le propos sur cette réforme-là puisque d'un certain point de vue, la concurrence qui est aussi un sujet dans ce rapport peut permettre de faire baisser les prix. Alors ensuite évidemment il faut qu'elle soit faite de manière raisonnée. Si on prend le cas du Royaume-Uni qui a fait cette réforme-là, ça s'est très mal passé.
Et
aujourd'hui,
le
système ferroviaire n'est pas du tout dans un état digne pour les usagers. Si on prend le cas de la Poste en France, il y a aussi un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Mais ce qui est certain, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne le désenclavement des territoires qui est totalement arrêté via cette réforme. Mais c'est même l'inverse, puisque un certain nombre de petits territoires sont totalement délaissés. Et ça pose la question de manière générale des investissements. C'est que entre 1990 et 2015, je crois, 38% des investissements qui ont été réalisés par la SNCF l'ont été sur les lignes à grande vitesse.
Eh ben oui,
donc certainement, la ligne à grande vitesse, c'est très bien. En revanche, maintenant, il est temps que la SNCF définisse une nouvelle politique économique vers les territoires.
Et alors Stéphane Vernet, il y a aussi le rapport, enfin, ce dont parlent les syndicats, c'est aussi cette dette, cette fameuse dette de la SNCF, c'est 40 milliards. Le rapport préconise que ce soit l'État qui la reprenne. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, 40 milliards?
Oui, ça c'est une piste dont on parle depuis un moment. C'est de nationaliser la dette. Elle est de 46 milliards, elle augmente de 3 milliards de plus chaque année. Si on fait rien, elle sera de 60 milliards en 2040. Et oui, c'est un vrai problème. Peut-être pour revenir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, Emmanuel Macron, le 1er juillet, quand il est venu inaugurer la LGV à Rennes, il a dit c'est fini, les LGV c'est terminé. Pour aller dans le sens que vous venez de développer là à l'instant, il a dit maintenant c'est les transports du quotidien. La question c'est où sont ces transports du quotidien dans cette histoire. Alors au-delà de l'histoire du statut des retraités, des cheminots, excusez-moi. Voilà, c'était le lapsus du jour.
C'est enregistré,
c'est officiel par contre. Mais comment il y a le statut de la SNCF. La SNCF, c'est un monument. Donc, de dire qu'on transforme... En France, c'est un monument, la SNCF.
Bien sûr,
si on dit
qu'on
transforme la SNCF en société anonyme, ça, c'est quelque chose de très touchy. Moi, je pense qu'on commence une phase de négociation. Ce qu'il y a dans le rapport Spinetta, encore une fois, c'est un rapport, c'est juste un rapport. La méthode du gouvernement Macron, c'est de dire on s'appuie sur les préconisations et on négocie autour de ce qui est
étonnant, c'est que ce rapport
préconisé
a été remis jeudi. Et ça y est, déjà, on a son avis par rapport à ça, non? Aussi, Frédéric Matouti, c'est rapide, non?
Ouais, c'est très rapide, ouais. Puis il y a quand même d'autres. Enfin, il y a des exemples de choses. Vous disiez l'Angleterre, ça marche pas. La Poste, bon,
mais
on peut discuter. Les autoroutes,
c'est
pas terrible. La privatisation de l'eau en France, c'est pas génial. Bon, je pense qu'on a aussi des exemples. Qu'est-ce qui se passe quand on y va trop vite, pas si bien?
Alors justement, ce qui va se négocier et ce qui va se jouer, en fait, si vous voulez, c'est une ouverture à la concurrence du service, mais qui sera une ouverture régulée. Vous avez notamment le Sénat qui insiste lourdement en disant « Ok, il faut ouvrir la concurrence. »
Mais c'est une obligation,
attention, il faut le faire, sauf qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc, chacun avance ses pions. Les cheminots vont demander à garder des prérogatives sur le statut. Vous avez les sénateurs, les élus, ou la ruralité qui va dire « Ok, mais on va garder certaines lignes non rentables. » Et là, on va rentrer dans un jeu de dentelle.
Jadzab.
C'est très bien joué de la part du gouvernement en termes de calendrier, parce que la remise de ce rapport quelques jours avant le début des négociations permet pour le gouvernement de sonder l'opinion publique et de voir quelles sont les premières réactions dans la société française.
Ils font ça souvent, on se souvient.
Bien
parfois
sûr,
c'est des fuites dans la presse.
Bien sûr,
c'est
des fuites provoquées. Le calendrier n'est pas anodin. Et je crois lire des premières tendances qui se dégagent dans les sondages d'opinion que les Français ne sont pas majoritairement opposés à cette réforme, et en tout cas à la modification et l'évolution de la SNCF. Donc voilà, ensuite, il faut négocier, mais le calendrier est intéressant.
Mais bien sûr, et la SNCF est effectivement un fleuron, enfin tout ce qu'on veut, un monument, mais il ne cesse de s'adapter aussi. Le transport routier SNCF existe de manière spectaculaire. Les lignes SNCF d'autocars se sont installées, elles aussi, et d'ailleurs, les concurrents commencent à trouver qu'ils sont dans une situation de... Ils savent très très bien se débrouiller.
Allez, on aura de toute façon l'occasion d'en parler, puisqu'on connaîtra la feuille de route de ces négociations le 26 février. Dans un instant, on parlera de ce rapport, là aussi, une nouvelle fois, quel nombre de rapports, c'est incroyable, sur l'intégration. On parlera des sondages d'Emmanuel Macron qui ne sont pas terribles, terribles. On voit ça, tout ça dans un instant, ça sera la suite des informés de France Info.
T'as vu, maintenant chez BMW, tu peux être surclassé.
BMW, ce sont des voitures, pas des avions.
Si, surclassé avec projecteur LED, jante 18 pouces, fonction park assist, système de navigation multimédia.
Ah, je pars tout de suite.
Demande la BMW X1 finition X-Line à 420€ par mois sans apport et entretien inclus.
Ah, j'adore cette destination.
BMW X1 finition X-Line, voyagez surclassé.
Loyer jusqu'au 15 mars 2018 pour la BMW X1 S-Drive 18i X-Line, LLD 36 mois, 30 000 km après acceptation par BMW Finance. Détails sur bmw.fr.
Ce vendredi, tirage exceptionnel Euromillion, avec 25 gagnants européens à 1 million d'euros. Alors, imaginez...
Moi, j'achète un chalet dans les Alpes!
Avec vue sur le Mont-Saint-Michel.
Puis-je pars faire le tour du monde?
Dans un jacuzzi géant!
Euromillion My Million, imaginez... Ce vendredi, tirage exceptionnel Euromillion. 25 gagnants européens à 1 million d'euros. Participation par l'attribution de code Euromillion parmi les pays participants, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Info Météo. Avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performante et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Attention au risque d'avalanche sur les Pyrénées. La perturbation arrivée aujourd'hui sur le pays va apporter de fortes chutes de neige demain sur le relief pyrénéen au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Et comme le vent va aussi se renforcer, cela va rendre le manteau neigeux beaucoup plus instable. Des plaines du sud-ouest au massif central jusqu'au pays de la Loire à la Normandie et Hauts-de-France, la journée s'annonce grise avec des pluies temporaires. Quelques averses sont aussi attendues entre la Corse et la Côte d'Azur. C'est mieux du Languedoc aux Alpes avec du soleil, mais du Mistral et de la Tramontane qui se lèvent. Éclaircies également en Alsace-Lorraine, gagnant l'après-midi jusqu'en Franche-Comté et à la Champagne-Ardenne. Les nuages vont aussi progressivement se morceler en Bretagne pour un après-midi plus agréable. Les températures du lever du jour seront comprises entre moins 2 et 10 degrés du nord-est au sud-ouest. Les maximales atteindront, elles, 4 à 10 degrés sur la moitié nord et 6 à 13 degrés plus au sud.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. On le répète, attention aux avalanches dans les Pyrénées, vigilance orange dans l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Stéphane Iglesis est allé à Cotteray, station des Hautes-Pyrénées, qui est restée à 90% fermée ce lundi.
Il faisait un temps de chien de traîneau et la petite neige tombée en grande quantité a donc entraîné la fermeture de 90% du domaine skiable, mis à part quelques pistes pour les débutants. Sécurité avant tout, Philippe Duclat, responsable du site d'Ulysse à Cotteray.
Depuis qu'on est parti hier soir 17h jusqu'à ce matin, on est arrivé à 6h pour effectuer un PIDA. On a eu 40 cm de neige sur le bas des pistes et 60 en haut. Oui, oui, la période est difficile, oui. Mais c'est-à-dire que c'est très perturbé depuis le début de l'hiver. Un hiver compliqué avec des passages, des grosses chutes de neige, des passages où on a eu aussi de la pluie à très haute altitude et puis reneige derrière. Et finalement, on n'a pas eu de période, des périodes d'ensoleillement. On a eu 4 jours maximum, nous, en ce qui nous concerne.
François-Xavier comprend la priorité donnée à la sécurité.
C'est moins rigolo, mais bon, ça permet de regarder le petit garçon qui a 6 ans et qui apprend à skier, donc on profite. Hein. La neige, elle est très très bien. Elle est limite poudreuse, c'est très sympa. Dommage que le domaine ne soit pas ouvert. Il a plu énormément ce week-end et puis là il a neigé cette nuit, donc c'est instable, il ne faut pas jouer.
La situation va rester compliquée demain, mais le soleil revient mercredi et donc le domaine skiable va mécaniquement s'agrandir. Cotteray dans les Hautes-Pyrénées, Stéphanie Glazis, France Info.
Et un cinquième département est ce soir en vigilance orange, mais pour des risques d'inondation, c'est le département des Landes. L'émission Quotidien diffuse de nouveaux extraits du cours tenu par Laurent Wauquiez devant des étudiants lyonnais. Il égratigne cette fois les organisations syndicales de sa région, à commencer par le MEDEF et la CGPME, qu'il accuse de s'intéresser davantage aux subventions régionales qu'à la politique mise en œuvre. Le président du Parti Les Républicains tacle également Alain Juppé, à qui il reproche des dépenses pharaoniques dans sa ville de Bordeaux. Simone Veil au Panthéon, ce sera pour le 1er juillet prochain. La date a été précisée ce soir. Simone Veil et son mari, puisque la promesse avait été faite qu'ils ne seraient pas séparés. L'académicienne, ancienne ministre et présidente du Parlement européen, est morte en juin dernier. La déception dans l'enquête sur le meurtre de Ghislaine Marchal en 1991, cette veuve dont la mort avait été imputée dans un premier temps au jardinier Omar Radad. Des analyses génétiques viennent d'être réalisées sur la porte du domicile et ces traces de sang ne correspondent à aucune des personnes présentes sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Enfin, l'ONG Oxfam présente officiellement ses excuses aux autorités haïtiennes. Le licenciement la semaine dernière de la vice-présidente de l'organisation n'a pas calmé le scandale. En cause, une mission de 2011 à Port-au-Prince lors de laquelle certains humanitaires ont fait appel à des prostituées mineures. Vous écoutez France Info, 20h33, la suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont décidé de commencer la semaine en forme, hein, participer aux Informés, je le rappelle, c'est l'équivalent de 3 séances de gym. Hein. Donc ils en profitent. Et ce soir, les Informés de France Info reçoivent la politiste Frédéric Matontier, également Jadzab, essayiste et président du Parlement des étudiants, Stéphane Vernet de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Tout à l'heure, on évoquait le cas, justement, Laurent Wauquiez, en se demandant, mais quand allait tomber les nouvelles phrases, et ben ça tombe bien, puisque comme nous sommes à l'antenne, et bien nos confrères, pas très loin d'ailleurs, d'ici deux quotidiens ce soir, ont dévoilé des nouvelles phrases de Laurent Wauquiez prononcées lors de ce fameux cours. Et il y a des phrases assez étonnantes, notamment sur La République En Marche. Ce serait, je cite, hein, Laurent Wauquiez, des guignols. Il y aurait une dictature totale en France actuellement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jadzab. Finalement, aujourd'hui, donc, Laurent Wauquiez est véritablement sans filtre, là, à tous les niveaux, et il tape sur vraiment là le gouvernement.
Alors là oui, s'il a effectivement dit tout ça, oui, c'est quand même très outrancier. Bon, c'est pas très étonnant, c'est quand même très gênant sur quand il critique les syndicats dans sa région,
les syndicats également,
quand il critique la gestion d'Alain Juppé dans sa mairie. Bon, Alain Juppé a été réélu, c'est quand même assez hors sujet. On a l'impression qu'il est prêt à tout pour exister. C'est très gênant. Ensuite, si l'émission quotidien feuilletonne, ça pose ensuite un autre sujet, parce que voilà, ils dévoilent une affaire, s'ils en gardent un peu pour feuilletonner, pour faire de l'audio. Voilà. Donc tout dépend. François, mais le fond est quand même assez inquiétant.
C'est là où on va retrouver François, la critique des médias. Ça...
Mais oui, mais.
Ben, bien sûr. Mais là, bon, elle risque d'être, à mon avis.
Et vous pensez que ça peut continuer comme ça, parler finalement ce face-à-face? Ben, on sait.
Combien de temps le face-à-face a-t-il duré? Nous ne le savons pas. Est-ce que c'était une heure, la durée du cours, une heure et demie? Nous ne le savons pas. Donc ils ont enregistré de toute façon tout ce qu'il a dit.
Bon, en tout cas, on aura l'occasion donc finalement d'y revenir, peut-être avant la fin de cette émission, c'est incroyable, on ne sait plus en tout cas pour Laurent Wauquiez. Allez, on va parler d'un autre rapport, on parlait de la SNCF, un autre rapport. Vous savez, une fois qu'il y a un membre coupé, il est impossible qu'il repousse, alors on greffe ou on va chercher une prothèse. On a donc peut-être trouvé la deuxième jambe de la Macronie. On connaissait la jambe droite et le versant libéral. Voici peut-être la jambe gauche et le côté social avec la question de l'intégration. Mercredi, vous le savez, Gérard Collomb présentera en Conseil des ministres le projet de loi Asile et Immigration. Un texte qui fait beaucoup parler hein, depuis décembre, qui divise la majorité. Et aujourd'hui, les hasards hein, quand même, sont arrivées des propositions afin de déminer le futur texte. 72 propositions afin d'améliorer l'intégration des personnes immigrées. Un rapport présenté par un ex-socialiste passé à La République En Marche, Aurélien Taché. Parmi les pistes de réflexion, davantage de cours de français, un meilleur accès au logement et à l'emploi, notamment en réduisant de 9 à 6 mois les délais d'obtention d'une autorisation de travail pour les candidats à l'asile. Mais impossible de différencier ce texte de celui présenté mercredi, selon Lise Faron, elle est responsable des questions droit et séjour de la CIMAD.
Une chose qui manque vraiment très largement dans le projet de loi tel qu'il sera présenté a priori mercredi, c'est vraiment toutes les dispositions pour favoriser les régularisations des personnes qui sont aujourd'hui en France. Au lieu de proposer plus d'expulsions, ce que fait en fait le texte, c'est vraiment de proposer plus de droits. Et ça, c'est pas uniquement une politique d'intégration, même si elle est largement souhaitable, qui va être suffisante.
Voilà, Lise Faron, responsable des questions de droit et séjour à la CIMAD. Stéphane Vernet, juste au départ. Alors là aussi, hasard incroyable, des propositions présentées, où ça? À Lyon. Et qui vient de Lyon? Gérard Collomb, comme par hasard, qui va présenter une loi mercredi. C'est étonnant, tous ces hasards, mais voilà, si c'est présenté à Lyon, bien sûr, ce n'est pas hasard.
Imagine, non, mais je pense qu'il est, mais il faut se méfier parce que ça se trouve, Gérard Collomb a été enregistré à l'insu de son plein gré.
Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, oui. Et donc, c'est, voilà, c'est pour accompagner véritablement ce qui va se passer mercredi, cette présentation de loi qui fait beaucoup parler d'elle.
Oui, oui, parce que le rapport d'Aurélien Taché, on sait qu'il était prêt depuis plusieurs semaines, mais ils l'ont gardé. Il y avait la volonté de le sortir la semaine où, effectivement, le projet de loi est présenté en Conseil des ministres et donc il sera discuté. Enfin, voilà. Après, moi, je trouve intéressant ce qu'a dit la représentante de la CIMAD. On en revient toujours au fond du problème, c'est deux visions très différentes en fait de l'immigration, l'accueil en France. Vous avez donc cette dame et puis un certain nombre d'associations, de citoyens qui disent à partir du moment où les gens sont là, il faut les intégrer, il faut les aider, et quel que soit leur statut, quelles que soient leurs conditions. Et puis un gouvernement aujourd'hui qui part du principe que il faut améliorer l'accueil des migrants qu'on veut garder. Et donc donner plus de moyens et par contre être dur et renvoyer ceux qui sont en situation illégale. Et ça, ce sont deux visions très antagonistes qui s'opposent depuis très longtemps et on n'a pas fini d'avoir des débats autour de ces questions-là.
Frédéric Matonti, parler finalement d'intégration par l'emploi, est-ce que c'est une chose, une piste intéressante, un meilleur accès à l'emploi, un meilleur accès au logement ?
Alors, il y a des choses très bien dans le rapport d'Aurélien Taché. C'est vrai que la question de raccourcir le temps où on peut accéder à un emploi et passer de 9 à 6 mois, c'est évidemment une piste intéressante. Pareil sur le logement. Donc ça, il y a rien à en dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pistes intéressantes dans ce rapport. Il y a des choses dont on ne parle pas qui sont peut-être un peu inquiétante dedans quand même. C'est d'abord la demande de recours aux statistiques ethniques.
Oui, hein,
c'est
fait,
une question qui revient. Et puis le fait qu'on va mesurer la motivation des candidats qui veulent accéder à la nationalité. Je ne sais pas comment
on ne sait pas le faire. On
mesure
sait pas comment,
ça, mais c'est jamais très rassurant. Après, je pense qu'il y a effectivement un phénomène tactique. Il y a un début de fronde parlementaire sur cette question autour du pôle social. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on voit bien qu'il s'agit là de stopper les choses. Bon, si quelques points en sont repris, ce sera une avancée minuscule, mais ce sera quand même une avancée. Mais voilà, on voit tellement les gros fils, on voit tellement les fils rouges.
François Orcival, cette idée justement d'intégrer, de faciliter finalement, enfin pas de faciliter, c'est pas de faciliter un emploi, c'est la recherche d'emploi pour des immigrés justement, et de passer de 9 à 6 mois dans le délai d'obtention de l'autorisation.
Oui, alors, faciliter l'emploi.
La recherche d'emploi.
Oui. Qui peut être contre faciliter la recherche d'emploi. Non, la question qui vient immédiatement, c'est pourquoi jusqu'à présent ne le faisait-on pas ? C'est à quel prix l'emploi en question ? À quel prix est-il payé par rapport à des salariés français existants en recherche d'emploi eux-mêmes ? D'autre part, ce que je trouve intéressant dans ce rapport, ce n'est pas simplement de faciliter la recherche d'emploi sous les conditions que j'ai dites, c'est oui, il faut apprendre le français si l'on veut s'intégrer à la société.
C'est déjà
française.
Le cas, mais là, c'est allonger le nombre d'heures.
Mais allonger le nombre d'heures. C'est-à-dire que on insiste énormément là-dessus parce que si vous ne parlez pas le français, vous ne vous intégrerez jamais. Et donc, toute déclaration de volonté d'intégration n'a pas de sens. Je rappelle que la mère de Mera, pour prendre un exemple complètement extrait.
Pourquoi vous prenez, là, on mais parle de gens que, qui vont non, travailler. Vous ne prenez pas l'exemple d'une personne française.
Réfugiée, c'est pas des réfugiés, là.
Non, juste, elle ne parle pas le français. Donc je veux dire, la volonté d'intégration s'exprime en parlant le français. Ce rapport le dit, il insiste là-dessus, il a raison. Maintenant, pour ce qui est de la recherche d'emploi, elle s'inscrit dans un tableau qui est celui de tout le monde.
Bon, on va continuer à en parler, en tout cas, parce qu'il y a tout de même des gens qui ne sont pas ceux-là dont vous parlez, François Dorcival. On va y revenir dans un instant. L'info à 20h40, Julie Smule.
Avec Emmanuel Macron et les guignols d'En Marche, il y a une dictature totale en France. Propos de Laurent Wauquiez face aux étudiants lyonnais. L'émission Quotidien sur TMC diffuse ce soir des nouveaux extraits. Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France, affirme le patron des Républicains. Laurent Wauquiez s'en prend aussi dans ses extraits aux syndicats, notamment au MEDEF et à la CGPME. La seule chose qu'ils veulent, je cite, c'est encaisser de l'argent. Donald Trump favorable au contrôle renforcé de ceux qui veulent acheter des armes à feu aux États-Unis. Très critiqué pour n'avoir rien dit sur le sujet après la fusillade qui a fait 17 morts la semaine dernière dans un lycée de Floride. Le président affirme aujourd'hui vouloir faire des efforts pour mieux contrôler notamment les antécédents des acheteurs. Attention aux inondations dans le sud-ouest, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont en vigilance orange. Vigilance aussi en montagne pour des risques d'avalanche en Haute-Garonne, dans les Hautes-Pyrénées et en Ariège. Audience record hier pour la victoire en biathlon de Martin Fourcade au JO de Pyeongchang. 6,4 millions de téléspectateurs devant France 2 pour voir le champion remporter une nouvelle médaille d'or et devenir le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver. Depuis, pas de nouvelle médaille pour la France. Le compteur reste ce soir à 10.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc dans cette émission donc consacrée, hein, je pense, à Laurent Wauquiez. Jadza, vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu. Juste, je précise une seule chose. Au début de l'émission, il y a le journaliste Paul Laroutourou, hein, qui travaille bien sûr pour Quotidien, qui a précisé ce dont nous, bien sûr, nous parlions au début. L'émission Quotidien, donc aucun étudiant n'a signé un accord de confidentialité. Nous n'avons évidemment pas versé un centime pour le document, hein, diffusé. Je vous en prie.
Bon, alors pour revenir sur le fond... là, pour le coup, ce qu'il dit, c'est quand même très, très grave. Parce que, ouais, oser dire qu'en France, la séparation des pouvoirs n'existe pas. Bon, moi, je fais des études, j'ai fait du droit. Ouais. Je crois, honnêtement, qu'il faut avoir un peu de décence dans les propos qu'on a. Laurent Wauquiez, potentiellement, il est le premier opposant à Emmanuel Macron. Et qu'il ose dire qu'en France, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Je trouve ça assez lamentable. Parce que je l'invite à aller en Turquie ou à aller en Iran. Et peut-être que là, il se rendra compte de la gravité des propos qu'il a. Il est un dirigeant public. Et il a une responsabilité, notamment vis-à-vis des jeunes. Et oser dire et accepter de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, que la France est une dictature ou les autres bêtises qu'il a pu dire, je suis assez atterré. Et c'est vraiment dommage parce que chez les Républicains, il y a des gens modérés, il y a des militants, il y a des jeunes qui y croient. Mais Laurent Wauquiez, là, il est totalement hors de son personnage. Et c'est inacceptable et c'est vraiment grave.
Alors Stéphane Bernet, parce qu'après, je reviens
très vite, vous venez de parler du fond, moi je vais parler de la forme. Ouais. J'insiste, je pense que c'est une vraie maladresse. À mon avis, Laurent Wauquiez se sentait en confiance. Il est face à des étudiants. Il a envie de briller. Et en fait, il s'est déboutonné. Moi, je vous parie que ça, sur un certain nombre de points, ses propos dépassent sa pensée. Il avait envie de briller. Et en fait, il est tombé dans le piège de son propre narcissisme. Et voilà. Et à force de se regarder dans la flaque, on finit par tomber dedans.
Voilà. Et ce soir, notamment, il y a des mots aussi très durs. On va pas continuer à en parler pour le MEDEF et les syndicats CGPME dans la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, qu'il préside. En tout cas, c'est assez étonnant. Bien sûr, nous parlions, sinon, du rapport d'Aurélien Taché sur l'intégration par rapport à la loi présenté par Gérard Collomb mercredi sur l'asile et l'immigration. Est-ce que, aussi Frédéric Matonti, on entend une critique, hein, chez certaines personnes à droite qui disent « Oui, mais alors attention, si on facilite comme ça le travail, c'est un appel d'air ». Ce fameux terme d'appel d'air.
Non, mais de toute façon, la question de l'appel d'air, c'est une question qui est totalement... Enfin, là aussi, c'est une thématique, c'est un mot d'ordre, c'est un chiffon rouge. Si on ne prend pas conscience du fait que, compte tenu des équilibres géopolitiques et aussi compte tenu de ce qu'on voit au niveau des catastrophes écologiques, de toute façon, il y a une pression migratoire, ça va être très compliqué de raisonner. Et alors, quand j'entends tout à l'heure François Dorcival qui confond une femme dont l'enfant est né en France, qui a la nationalité française, avec un migrant et qui donc sciemment met l'accent sur la dangerosité des migrants, je trouve ça quand même très problématique.
Non, alors
François,
vous avez raison de reprendre ce point. Ce que je veux dire, c'est que comment accepter ou vouloir parler d'intégration quand on ne parle pas la langue.
Des générations.
Quand on ne parle pas la langue. C'est le seul point que j'ai dit.
Des générations.
Et effectivement,
entières
publiquement,
de migrants,
cette affaire a été choquante.
Mm-hmm. Des générations entières de migrants se sont insérées au fil du temps en gardant parfois des accents extrêmement forts, qu'ils soient italiens, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient polonais, et ils se sont intégrés. Donc, bien sûr qu'il faut maîtriser la langue, mais si on doit en faire une condition indispensable pour obtenir la nationalité,
vous provoquerez les barrages.
Moi, ma grand-mère, je suis désolée, mais elle n'écrivait pas le français. Et pourtant, elle était une très bonne française quand elle a obtenu sa naturalisation. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on est en train de dire.
Il faut faire très attention
à propos des apprentissages linguistiques.
Le fait
qu'on aide les gens à s'intégrer, ce que font parfaitement les écoles, par exemple, quand il y a des enfants qui arrivent de l'étranger, bien sûr, qu'on fasse de l'apprentissage linguistique une condition, il faut y faire très attention parce que comment on va mesurer cette condition ? Laurent Wauquiez, il passe pas la barre, là, je peux vous dire, sur l'apprentissage linguistique.
François Orcival, vous vouliez rajouter
Non, je crois qu'on va, on va alors, solder donc, cette
D'accord,
cette
alors Jad Zahab, quand vous voyez finalement, alors je précise juste, un demandeur d'asile, de toute façon, ne peut exercer un emploi que dans un secteur manquant de main-d'œuvre, hein, faut bien le préciser. C'est le principe, je le cite, de l'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est-à-dire, si un secteur, il y a un trop-plein de demandes, il ne peut pas accéder. Aujourd'hui, il y a des secteurs dans lesquels il y a des demandes d'emploi, hein, comme le bâtiment, comme l'hôtellerie. Est-ce que pour vous, d'après vous, ces propositions vont adoucir cette future loi asile-immigration que certaines associations critiquent vertement depuis quand même le mois de décembre, hein.
Bon, premièrement, le droit d'opposabilité dont vous venez parler, mais tout de suite hors jeu ceux qui voudraient dire voilà, ça y est, les étrangers viendraient prendre le travail des Français. Ensuite, je crois que l'objectif de ce rapport, c'est effectivement d'adoucir le projet de loi de Collomb. On entend dans la majorité, on entendait beaucoup dans la société, Gérard Collomb, il est ni de gauche ni de gauche. Bon, ben ce rapport-là, il a quand même un volet social extrêmement important, et je crois effectivement que l'objet, peut-être via des amendements à l'Assemblée nationale, c'est d'adoucir. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est très intéressant, juste en quelques mots. Vous disiez l'intégration par l'emploi, c'est aussi dans les propositions que qu'Aurélien Taché a remis, l'intégration par l'engagement. Je crois qu'il parle d'une plateforme du numérique sur laquelle on pourrait rapprocher le service civique et les plateformes d'engagement. Voilà, c'est intéressant, et effectivement le jeu politique, il est bien de faire marcher ce texte sur deux pieds, un pied plus droitier et un pied plus social. Ensuite, reste
donc
à voir.
Ça serait possible alors de faire en même temps sur ce sujet.
Alors c'est l'objectif, j'ai l'impression. Ouais. Ensuite,
Stéphane Bernard, est-ce que ça peut justement, cette loi, est-ce que c'est un finalement pour La République En Marche? Parce qu'on a vu en effet qu'il y avait certains députés venant de la gauche pour qui c'était un marqueur.
Ah mais complètement, et ça peut être une ligne de fracture importante. Alors là, on parle d'une trentaine de députés En Marche qui seraient en désaccord. Ou bon, et on a les éléments de langage sont toujours les mêmes, reviennent systématiquement. Ils consistent à dire oui, mais non, vous regardez ça, vous faites une comparaison avec la période, la fronde, mais chez nous, il n'y a pas de fronde. Il y a des discussions internes, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. On parle entre nous, et ce qui compte, c'est qu'au moment du vote, on soit tous d'accord. Ben, moi, je pense qu'il faut attendre le moment du vote. Et là, il peut y avoir un certain nombre de députés qui effectivement publiquement vont afficher un discours différent. De là à ce que le groupe des 313 se fractionne.
313 députés En Marche.
Ouais, moi je crois pas, simplement parce que imaginez que des députés En Marche veuillent quitter En Marche pour aller ailleurs. Où est-ce qu'ils iraient aujourd'hui?
Bien sûr, François Orcival.
Juste une précision. Oui. Il ne s'agit pas d'un rapport parlementaire. Non. C'est un rapport d'un parlementaire sous l'étiquette ministère de l'Intérieur. Donc on voit bien la volonté que ce rapport soit intégré à la discussion.
Tout à fait, ça sera intégré, et projet de loi, asile et immigration, ça sera donc présenté mercredi en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Allez, dans un instant, on va parler un petit peu de sondage et cette République En Marche, enfin cet exécutif qui a passé un mauvais mois de janvier. On va voir pourquoi. L'info à 20h50, Julie Smul.
De nouveaux extraits de la conférence de Laurent Wauquiez face à des étudiants lyonnais, diffusés ce soir dans l'émission Quotidien sur TMC. Et le patron des Républicains affirme qu'il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France, mais une dictature totale. Il s'en prend aussi aux syndicats. Tout ce qu'ils veulent, c'est encaisser de l'argent. Fin de citation. 72 mesures pour améliorer l'intégration des réfugiés en France. Rapport signé par le député En Marche, Aurélien Taché. Le gouvernement en reprendra les grandes lignes, promet ce soir le Premier ministre. Le projet de loi Asile et Immigration doit être présenté mercredi en Conseil des ministres. Une djihadiste française de 27 ans arrêtée cet été en Irak et bientôt expulsée direction la France. Mélina Boudjedir est partie en 2015 pour rejoindre son mari. Elle est visée par un mandat de recherche français pour association de malfaiteurs terroristes. Elle sera placée en garde à vue dès son arrivée dans le pays. Ce sera donc bien un procès à huis clos pour Patrick Giovannoni devant les assises des Bouches-du-Rhône. Ce Corse repenti, placé sous protection depuis qu'il a dénoncé les membres de la bande criminelle dite du Petit Bar. Il comparaît depuis cet après-midi aux côtés de quatre d'entre eux, sans public donc ni journaliste. Un an après sa mort, Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet prochain. Une promesse faite par Emmanuel Macron pendant les obsèques de l'ancienne ministre. La cérémonie sera retransmise en direct à la télévision. Simone Veil deviendra la cinquième femme à faire son entrée au Panthéon.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Donc, selon Laurent Wauquiez, nous sommes dans une dictature totale. Voilà, alors, je ne sais pas comment on doit se positionner, puisque nous sommes sur le service public, donc c'est inquiétant. Alors là, je vais me faire taper hein, par le dictateur total, puisque je parlais d'un sondage qui n'est pas très bon pour lui, puisque selon le journal du dimanche, Emmanuel Macron récolte maintenant 44% d'opinions favorables contre 50% il y a un mois. Édouard Philippe lui passe de 49% à 46%. C'est un mois de janvier difficile pour l'exécutif. C'est aussi un peu ça, quand on force au réveillon, on le paye le premier mois. Mais l'Élysée, comme Matignon, doit faire face à... En fait, finalement, bah depuis le 31 décembre, bah des mini-mouvements sociaux. Il y a quand même une inquiétude sur le pouvoir d'achat. Il y a également de la grogne sur la limitation de la vitesse à 80 km/h. Mais tout doux bijou, ça va être super. Enfin, bientôt. Hein, le député de La République En Marche, Gabriel Attal.
Il y a 3 semaines ou 1 mois, vous m'auriez fait commenter l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron dans les sondages. Les sondages, ça bouge. J'ai envie de dire, on est au début du chemin. On est au début là. On a mis en place les premières mesures pour le pouvoir d'achat. Tous les salariés dans ce pays voient leur net augmenter depuis le mois de janvier et ça va monter en puissance. Et 80% des Français verront leur taxe d'habitation supprimée d'un tiers au mois de septembre, d'octobre prochain. Ça, il faut le dire, il faut l'expliquer. Tout ça va monter en puissance.
Voilà, Gabriel Attal, donc député de La République En Marche. François Orcival, ça va monter en puissance. Donc pourtant, malgré tout, c'est un deuxième mois de chute, hein, malgré ce que dit Gabriel Attal.
Oui, absolument. Mais il est vrai également que l'expérience montre qu'en septembre et octobre, la situation d'Emmanuel Macron dans les sondages était mauvaise.
Oui, bien sûr.
Il y a eu un redressement à partir de novembre et décembre. Alors, cela dit, par quoi s'explique la baisse assez spectaculaire, en effet, d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe dans les sondages? Il ne faut pas oublier la population des retraités.
Oui.
La population des retraités, qui est relativement importante dans notre pays, a été frappé par l'affaire de la CSG. Mmh. Et donc, ceci a fait l'objet du débat public, fortement d'ailleurs amplifié par l'opposition, ce qui était son métier. Et je pense que c'est cela qui se traduit dans les sondages aujourd'hui, parce qu'on vous dit trop que l'affaire du pouvoir d'achat est importante dans l'opinion des Français pour que cela ne se reflète pas à un moment donné dans les sondages.
C'est ça, Frédéric Martensi, c'est l'histoire du pouvoir d'achat, on le voit, hein, ça a été très prégnant. La semaine dernière, on a vu en effet des enquêtes d'opinion qui montraient qu'il y avait des doutes. Hein,
manifestement, oui, c'est sur les pouvoirs d'achat. Quand on les regarde un peu plus près, ces sondages, il y a une enquête tout à fait passionnante dans La Tribune aussi, sur les critiques très précises qui sont faites par les enquêtés et qui portent en gros sur la hausse de la fiscalité sur les carburants, sur la baisse des CSG. Et puis, il y en a une autre, je ne sais plus laquelle c'est, mais qui montre qu'il y a un pessimisme extrêmement fort des Français sur leur pouvoir d'achat et que plus on va vers les classes populaires et plus on va vers donc les catégories qui ont des salaires les plus bas et plus ce pessimisme est élevé. Donc il y a un effet de vague de fond. Et puis il faut dire aussi que quand on a des députés comme Bonnel qui vient à la télévision et qui explique aux gens que le pouvoir d'achat, ça n'a aucune importance. Je pense que les deux effets sont absolument désastreux. Bon, à part ça, et puis il n'y a pas qu'un sondage qui est mauvais, il y en a un autre. Ce qui compte dans les sondages, c'est la répétitivité. Il y en a deux, il y a au moins l'IFOP et l'Ipsos. Et puis le sens. Là, le sens, il est reparti à la baisse. C'est peut-être même la bulle de novembre-décembre autour de l'enterrement de Johnny Hallyday hein, qui avait fait la hausse.
C'est ça.
Non, mais je le dis sérieusement, je pense qu'il est aussi évalué comme un people. Il y a un côté people autour de lui, aux côtés de Brigitte Macron, qui fait qu'il est presque évalué quant à people. Donc quand il fait des choses très people, comme un enterrement, bah, ça monte.
Stéphane Vernet, pourtant il y avait eu des décisions assez populaires, hein, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est là, il y avait eu enfin, ça y est, une décision dessus. Ouais. Ça veut dire tout de même, à partir du moment quand même, quand on parle du pouvoir d'achat, c'est ce qui passe au-dessus, forcément.
Alors, ce qui est saisissant, c'est que des sondages, des baromètres, hein, il y en a quasiment une dizaine, ils n'ont pas tous les mêmes chiffres, mais les tendances sont les mêmes. Donc, c'est ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. Ce qui est saisissant, c'est que là, on voit que l'exécutif, enfin le couple Macron-Philippe est en train de baisser. Par contre, en parallèle, si vous regardez les sondages qui portent sur les réformes, les unes après les autres détaillées, en fait, sur la plupart des réformes, il y a consensus, il y a les chiffres sont bons. Et donc, on a cette espèce de dichotomie étrange où on voit un président et un premier ministre qui sont en train de baisser dans les sondages alors que leurs réformes continuent à être approuvées. Sauf deux qui posent vraiment problème. c'est effectivement l'augmentation de la CSG pour les retraités. Il y a 9 millions de retraités qui gagnent plus de 1 200 euros dans ce pays et donc qui, eux, en termes de pouvoir d'achat, bah, c'est quick, ils voient le résultat direct. Et puis, il y a aussi la limitation sur la future limitation à 80 km/h. Avec l'augmentation du prix de l'essence dans les milieux, enfin en dehors de Paris, ça passe pas bien.
Il n'y a pas de petite ligne.
Jadzab, rapidement, en effet, c'est tendance quand même aujourd'hui qu'on remarque, plus positionné sur la personne d'Emmanuel Macron, de sa politique.
Mais disons que ça fait bientôt un an que maintenant Emmanuel Macron, le dictateur, pour reprendre les termes de Laurent Wauquiez, a été élu. Donc voilà, je pense que un certain nombre de personnes se posent des questions sur qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma vie à moi, mon salaire, le prix que je dépense dans l'essence. Et donc effectivement, je crois que c'est le pouvoir qui fait qu'on est impopulaire. Et l'important, c'est de ne pas gouverner en fonction des sondages, mais de continuer les réformes si elles sont bonnes pour le pays.
Allez, les informés de France Info, c'est l'heure terminée. Merci beaucoup, Jadzab, d'être passé ce soir. Merci Frédéric Matonti. La Une de West France, Stéphane Vernet, demain.
Ah, le plastique, c'est plus fantastique. On a eu un bon sujet sur la Chine qui ne veut plus importer nos déchets en termes de plastique. Et donc, on sait pas ce qu'on va en faire.
À retrouver la Une de West France, François Dorcival.
Et les polémiques sur l'histoire de France avec la publication du nouveau petit-fils.
Allez, il est temps de retrouver Olivier de Lagarde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Jean-Michel.
Tout est politique au programme ce soir.
Je vais vous dire, les informés ont commencé trop tôt ce soir parce que vous n'avez pas pu entendre les nouveaux extraits du cours de Laurent Wauquiez. Vous n'avez pas pu les entendre, vous allez les entendre. Et on va en débattre longuement dans Tout est politique ce soir. On sera avec Gilles Legendre de La République En Marche. Nous serons également avec Bernard Carayon, un proche de justement Laurent Wauquiez, et Daniel Simonet de La France Insoumise. Tout est politique dans 5 petites minutes.
Oui, dans quelques minutes en effet. Tout est politique, restez bien sur France Info.